Bien, chers fidèles, ça fait plus de 2 ans, presque 3, que 2 ans et demi, que je ne vous ai pas parlé comme cela en public de toutes ces relations entre la fraternité et Rome. Long silence qui était nécessaire pour le déroulement aussi bon que possible de ces discussions. Long silence entrecoupé de bruissements, souvent aussi indirect qu'inexact, mais qui désormais a été rompu par ce communiqué de la congrégation de la doctrine de la foi, qui libère donc d'autant notre propre parole, communiqué publié le 16 mars et dont sans doute vous avez déjà eu la teneur. J'en relis les passages essentiels pour ceux qui n'en auraient pas eu connaissance. Au cours de la rencontre du 14 septembre 2011 entre son éminence le cardinal William Levada et son excellence Monseigneur Bernard Felet, un préambule doctrinal accompagné d'une note préliminaire a été communiqué à ce dernier comme base fondamentale pour parvenir à la pleine réconciliation avec le siège apostolique. Dans ce préambule étaient énoncés certains principes doctrinaux et critères d'interprétation de la doctrine catholique nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église. La réponse de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis à ce préambule a été déposée en janvier 2011 et cette évaluation par Rome de cette réponse fait remarquer que la position exprimée par la Fraternité n'est pas suffisante pour surmonter les problèmes doctrinaux qui sont à la base de la fracture entre le Saint-Siège et la dite Fraternité. Au terme de la rencontre de ce jour, dans le souci, donc le 16 mars, dans le souci d'éviter une rupture ecclésiale aux conséquences douloureuses et incalculables, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis a été invité à bien vouloir clarifier sa position afin de parvenir à la réduction de la fracture existante, ainsi que l'a souhaité le pape Benoît XVI. Ce communiqué, pour en mesurer la portée, les enjeux, réclame évidemment d'être remis dans le contexte de tous les événements qui se sont déroulés depuis maintenant plus de 2 ans. Revenons donc ensemble sur ces faits, en commençant peut-être par cette ouverture des discussions doctrinales, ce qui s'est passé un petit peu avant, juste avant. Vous savez combien Monseigneur Felet insistait pour que ces discussions aient lieu. Elle lui paraissait indispensable parce que la soumission disciplinaire est très importante dans l'Église. Elle est très importante. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne est une vie de dépendance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la dépendance disciplinaire est importante. Mais cette dépendance disciplinaire n'est qu'une conséquence de la dépendance de la foi. Par la foi, nous faisons allégeance, en quelque sorte, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi elle-même qui me fait poser cela. Et donc, par conséquence, lui faisant allégeance, j'obéis disciplinairement à ceux qu'il a institués comme gardiens, dépositaires de la foi. Dépendance disciplinaire donc importante parce qu'elle concrétise dans la vie quotidienne cette vie de la foi, mais dépendance disciplinaire qui n'est que la conséquence de la dépendance de la foi. Et donc cette dépendance disciplinaire, pour être vécue de manière réelle, sanctifiante, efficace, se doit d'être effectivement dans la poursuite, j'allais dire, de la dépendance de la foi. Il faut donc qu'il y ait cette union, cette unité profonde de la foi entre l'Église enseignante, le pape, les évêques en place, les évêques diocésains, et les fidèles, qu'ils soient fidèles ou prêtres, qui leur sont confiés. C'est cette unité de la foi est l'unité fondamentale de l'Église sur laquelle vont se greffer tous les autres principes de l'unité de l'Église. Et comme c'est justement à ce niveau-là de la foi catholique elle-même que les problèmes réels existent, vous les connaissez très bien depuis des années, c'est la foi qui est atteinte dans les actes par cette nouvelle pratique œcuménique. C'est l'entretien, la nourriture de la foi qui est atteinte par les réformes liturgiques. C'est dans la pratique l'unicité même du bon Dieu et sa paternité universelle sur tous les hommes qui est remise en cause par la liberté religieuse telle que comprise aujourd'hui. Tout cela, ça touche profondément la foi. Et donc, Monseigneur, effectivement, pour pouvoir vivre dans cette dépendance disciplinaire, a demandé auparavant qu'il y ait cette clarification quant à la foi sur la nature des divergences existant entre la fraternité et ceux qui aujourd'hui détiennent l'autorité, entre donc la tradition multiséculaire de l'Église et ces grandes thèses nouvelles avancées par le Concile Vatican II. Ces discussions doctrinales sont intervenues après l'octroi, nous le savons, Deo gratias, des deux préalables, qui demeurent un véritable signe d'espérance. Ces préalables, la libération de la messe traditionnelle, a été accordée par la volonté personnelle du pape. C'est ce que signifie l'expression « motu proprio ». Un « motu proprio », c'est un acte papal qu'il fait de son propre mouvement. Presque, j'allais dire, au-dessus, indépendamment, s'il le souhaite, de tous les rouages ecclésiastiques habituels. C'est une volonté personnelle très forte, et avec pas mal d'opposition, que Benoît XVI a donc libéré la messe traditionnelle. C'est encore avec, je cite, « les facultés expresses concédées par le Saint-Père Benoît XVI » que le cardinal Ré a publié la levée du décret d'excommunication. C'est encore un motu proprio du pape qui a réformé la commission Ecclesia Dei pour la rattacher à la doctrine de la foi, et cela afin de permettre ces discussions doctrinales. Donc autant de signes positifs, intéressants, venu de Rome pour permettre effectivement ce débat doctrinal de fond. Ceci étant dit, à ces signes forts sont venus s'ajouter dans les semaines qui ont précédé ces discussions d'autres signes, cette fois-ci plus inquiétants, d'autres faits, voire carrément négatif. Par exemple, juste après la levée de l'excommunication, vous connaissez ce texte, la secrétairerie d'État a publié un communiqué en date du 4 février 2009 disant « La condition indispensable pour une future reconnaissance de la Fraternité Saint-Pie-X est la pleine reconnaissance du Concile Vatican II et du magistère des papes de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI lui-même. » Donc très clairement, la secrétairerie d'État marquait ce qui pour elle était une limite rouge à ne pas franchir, la remise en cause de tel ou tel enseignement du Concile Vatican II ou des papes qui ont suivi. Dans le même registre, nous sommes 15 jours avant le début des discussions doctrinales. Le cardinal Levada, qui va en avoir la charge officielle, puisque c'est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Levada fait publier une interview assez longue, relative, entre autres, à ces discussions doctrinales sur le point de commencer. Et il explique que la condition indispensable pour qu'il y ait une reconnaissance de la fraternité Saint-Pédis est que celle-ci fasse sien le nouveau catéchisme de l'Église catholique. Puisque ce nouveau catéchisme, pour eux, est l'enseignement de Vatican II éclairé à la lumière de la tradition. Et donc, dans cette interview, il explique « Nous n'avons pas le même catéchisme, il est indispensable que nous ayons le même catéchisme. » Et, comme par hasard, au même moment, le même cardinal fait paraître ce texte émanant de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Anglicanorum Cetibus, s'adressant aux Anglicans qui tournent leur regard vers l'Église catholique pour leur accorder un statut canonique très particulier et leur garantissant une certaine autonomie. Et la seule condition, c'est l'acceptation du catéchisme nouveau de l'Église catholique. Deux signes au même moment, juste avant le début des discussions doctrinales. Nous sommes 15 jours avant ces discussions. 10 jours avant, dans la presse, circule un bruit lâché par Rome, selon lequel les intervenants de la fraternité qui arriveront sous peu à Rome pour le premier rendez-vous se verront présenter un texte d'adhésion à tous les enseignements du Concile Vatican II, de reconnaissance de la légitimité de la nouvelle messe, d'acceptation du nouveau code de droit canonique, et ainsi de suite. Le bruit a été lâché et la chose était réelle. Nous avions reçu tant Monseigneur Follet que nous quatre qui assistions, qui étions membres de cette commission, nous avions reçu un texte de Rome pour signature, une formule d'adhésion à tous les enseignements du Concile Vatican II. Et on citait effectivement liberté religieuse, enfin tout y était en gros, et simplement une formule restrictive disant que liberté était laissée vis-à-vis de telle ou telle formule particulière de proposer une expression plus adéquate. C'est-à-dire ne remettez surtout pas en cause tous les enseignements de Vatican II. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a une formule qui pourrait davantage exprimer la continuité entre ces enseignements et tel ou tel enseignement antécédent, vous pouvez toujours la proposer. Et nous avions reçu donc cela à peu près 15 jours, 3 semaines, avant le début des discussions doctrinales. Autrement dit, il nous imposait à la signature, avant même l'ouverture des débats, ce que eux auraient aimé voir comme conclusion des débats. Alors évidemment, dès la première réunion, nous leur avons expliqué que ce texte, nous ne le signerions pas, et ce à quoi ils s'attendaient, je pense, évidemment. Mais il s'est avéré, au fur et à mesure des rencontres sur place, nous sommes allés 8 fois à Rome, et à chaque fois, entre deux réunions, il y avait des échanges écrits assez conséquents. Tout était basé sur les écrits, les documents que nous leur remettions. Nous avons fixé une méthode de travail qui s'est avérée assez intéressante et constructive quant à la méthodologie. C'est-à-dire, quand on abordait un thème, nous leur présentions un mémoire de 10 à 50 pages, résumant les problèmes. Eux nous répondaient par écrit Et si nous en avions le temps, parce que tout se passait en un mois et demi, nous faisions une réponse écrite ou des observations écrites à leur réponse. Et nous nous retrouvions ensuite une journée pour parler oralement de tout cela. Et nous avancions ainsi de thème en thème. Nous avons commencé par le missel de Paul VI. Nous avons continué avec la liberté religieuse, poursuivi avec l'ecclésiologie, enfin quelques points d'ecclésiologie, notamment la question du subsistit in, de laquelle dépend la nouvelle conception de l'œcuménisme, la question de la collégialité, et puis enfin, c'est la question du magistère qui a été abordée. Et alors à chaque fois qu'un sujet s'ouvrait, il y a donc tout cet échange de documents, mais qui continuait ensuite au fur et à mesure, pendant toute l'année, voire sur les 2 ans, quand bien même les autres thèmes étaient commencés. Donc les échanges épistolaires écrits sont très conséquents. C'était l'essentiel de ces échanges. Et bien à travers tout cela, ce qui est apparu de manière de plus en plus claire, c'est que le modérateur de ces débats, qui était Mgr Pozzo, le secrétaire de la commission Ecclesia Dei, lequel au demeurant est très sympathique, Mgr Pozzo, avec le recul, il me paraît très clair que sa mission était de trouver la formule d'adhésion au concile et à la nouvelle messe, suffisamment explicite pour satisfaire les exigences romaines et suffisamment habile pour que nous puissions la signer. Et donc, effectivement, de réunion en réunion, nous avions ces textes d'adhésion reformulés sans arrêt, qui réapparaissaient soit sur la table, soit quelquefois carrément sous la table, à l'issue d'un repas bien arrosé avec Mgr Pozzo, qui part en dessous et disait « Et vous pensez quoi de ce papier ?» Par exemple, vous voyez, pour vous dire, sur la nouvelle messe, nous avons eu, je crois, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 formules différentes d'adhésion qui ont été proposées à notre signature. Et toujours, toujours, l'objectif était de nous faire accepter la légitimité de la nouvelle messe. Toujours. Ça a été l'optique fondamentale de Mgr Pozzo pendant tous ces débats dont il était le modérateur. Je pense qu'en tout, c'est à quelque chose près une douzaine, quinzaine de formules d'adhésion différentes qui nous ont été ainsi successivement proposées. Initialement, on pouvait s'interroger, avant d'arriver à Rome pour la première fois, on voyait d'un côté cette volonté personnelle et forte, pape Benoît XVI, pour libérer la messe, ainsi de suite, organiser ces discussions, et de l'autre, des signes qui paraissaient contraires, le cardinal Levada, par rapport à l'exigence du nouveau catéchisme, ces signes dont je vous parlais, on pouvait se dire, mais peut-être qu'il y a à Rome un double langage. Alors comment s'explique-t-il ? Est-ce qu'il y aurait des tensions entre la pensée personnelle de Benoît XVI et une partie de la curie ? Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 70%, je crois, des cardinaux ont été créés par Benoît XVI, alors qu'il est à la fin du dernier consistoire. Il a profondément renouvelé tous les postes de direction de l'Église, puisque chaque cardinal est nommé pour 5 ans à la tête de son dicastère. Donc Benoît XVI a renouvelé tout ce qu'il souhaitait renouveler. Alors, on se disait dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un double langage ? D'un côté, ce que pense Rome, ce que veut Rome, et de l'autre côté, des formules un petit peu officielles pour rassurer l'aile plus progressiste de l'Église. Et donc, dans ces cas-là, ce texte initial de la secrétairerie d'État exigeant pleine reconnaissance du Concile Vatican II et du magistère de chaque pape à la suite. C'était finalement des textes simplement pour rassurer, protocolaires pourrait-on dire, et sans véritable valeur de fond, on pouvait très légitimement se poser la question. Très, très légitimement. Il s'est avéré, au fur et à mesure de ces deux années de discussion, constatant combien ce texte d'adhésion initiale qui nous avait été proposé était le fil rouge, expliquant, reliant tous ces rendez-vous romains. Il s'est avéré donc que ces textes de la secrétaire d'État, par exemple, loin d'être simplement protocolaires, étaient effectivement décisionnaires, en ce sens qu'ils montraient l'axe que devait suivre un monseigneur Pozzo, et donc Rome entendait suivre à travers ces discussions. Ces discussions ont été, je ne vous le cache pas, abrégées de par la volonté romaine. Et c'est Rome qui a sonné la fin concrète de ces discussions. En effet, d'un côté de la table comme de l'autre, nous savions que le dernier thème qui serait abordé serait celui du magistère. C'était pas forcément le plus compliqué, loin de là, mais on va dire le plus chaud sur la marmite, quoi. Et nous savions, quant à nous, qu'abordant ces thèmes, ils n'étaient pas prêts à entendre ce que nous avions à leur dire là-dessus. Et donc eux-mêmes ont réclamé, on a fait toute une liste de thèmes à aborder, et cette liste a été abrégée pour que soit directement abordée, au bout d'un moment, la question du magistère. Par exemple, nous avions prévu de traiter ensemble, comme tel, de l'œcuménisme, du dialogue interreligieux. Tout cela n'a pas été fait. Ils ont voulu, donc, assez vite, au bout d'un an et demi, aborder la question du magistère et chercher à conclure. Pourquoi cette rapidité et cette mise entre parenthèses de certains thèmes? Je ne pense pas me tromper en disant qu'ils ont assez vite constaté que nous ne signerions pas les documents qu'ils nous mettaient pour signature. Ils l'ont compris assez vite. D'ailleurs, à un moment, c'était au bout de 8 mois de discussion doctrinale, peut-être, 8 mois, 1 an, Monseigneur Pozzo a envoyé des formules d'adhésion directement à Monseigneur Follet, sans même nous les passer. Je pense qu'il s'est posé la question de savoir, à ce moment-là, si nous étions bien représentatifs de la fraternité ou pas. Et donc il est passé par-dessus la commission pour aller sonder un peu Monseigneur Follet, voir comment il réagirait. Évidemment, Monseigneur Follet nous a fait part tout de suite, on a traité tout ça ensemble, enfin, évidemment. Mais vous voyez, l'axe de ces discussions a été celui-ci. Et par là même, le fait qu'elles aient été abrégées, je pense, s'explique aussi par cela. D'autant plus que dans le même temps, il y avait donc la béatification de Jean-Paul II, qui était quand même une véritable pierre de division. Quand on connaît un tant soit peu l'enseignement de Jean-Paul II, on ne peut être qu'effrayé par le fait qu'il soit béatifié. Il y avait en même temps, 1er janvier 2011, l'annonce de la réunion d'assises. Nous-mêmes, à Rome, 3 fois de suite, à chaque fois qu'on y allait, c'était au lendemain, mais vraiment au lendemain, à 24 heures près, j'allais dire une catastrophe œcuménique ou interreligieuse. On y est allé le lendemain de la visite du pape à la synagogue de Rome. On y est allé le lendemain de la participation de Benoît XVI au culte luthérien à Rome. Et la troisième chose, je ne sais plus où c'était, enfin même chose, quoi, même style. Ouais, bon. Donc tout cela, effectivement, n'était pas forcément pour faciliter la discussion paisible. Mais donc retenons que de fait, ces discussions étaient menées du côté romain avec cet axe fondamental, nous faire accepter une formule d'adhésion aux enseignements du Concile et à la nouvelle messe. Elle s'arrête donc, nous nous sommes retrouvés là-bas pour la dernière fois en avril 2011, ils ont voulu clore, et ça s'est fini un petit peu en queue de poisson, avant la béatification de Jean-Paul II. Les échanges de documents se sont achevés à peu près en juin, mais la dernière réunion, donc, avril 2011. Quant au fond, Mgr Felley, lors de l'université d'été à l'école Sainte-Marie à Saint-Malo, a fait une conférence donc le 15 août 2011, et il dit que quant au fond, les deux côtés de la table ne sont tombés d'accord que sur une seule chose, à savoir qu'ils n'étaient d'accord sur aucun des points en litige. Nous avons eu, malheureusement, effectivement, j'ai presque envie de dire une sorte de profession de foi envers l'autorité du Concile Vatican II. Nous avons eu des débats, selon les thèmes abordés, de niveaux plus ou moins variables. Cela dépendait beaucoup du chef de projet, on dira ça comme ça, du responsable du thème de chaque côté de la table. Chaque thème abordé l'était par tous, mais était confié principalement à un côté de la table. Et en fonction des personnalités en face de nous qui prenaient en main le sujet, soit on avait un véritable débat intéressant, ou soit au contraire, des non-réponses très décevantes. Le débat le plus intéressant pour moi, on a eu un très bon débat sur la messe, le missel, la liturgie. Le débat le plus intéressant, le plus fort, a été celui sur la liberté religieuse. Et lorsque je parle de profession de foi, c'est parce que Mgr Ocaris, le grand spécialiste mondial en ce domaine, Mgr Ocaris, très honnête, très droit, a vraiment cherché à mener un véritable débat de fond, et dont la conclusion a été très révélatrice. Elle disait en substance, écoutez les arguments de ceux qui disent qu'il y a discontinuité, rupture, entre la liberté religieuse du Concile Vatican II et les enseignements pontificaux antécédents, donc les arguments de ceux qui disent qu'il y a rupture, ne sont pas sans fondement. Il ajoute, il est vrai aussi que les réponses que nous avons apportées à leurs objections ne sont pas forcément très satisfaisantes. Il ajoute encore, disant, il est clair aussi que les tenants de la thèse de la continuité entre la liberté religieuse de Vatican II et les enseignements antécédents, donc les tenants de cette thèse, eux-mêmes donc, ceux-là n'ont pas encore pu mettre en évidence la continuité. Ils n'ont pas encore pu mettre en évidence la continuité. À plusieurs reprises, ils nous ont dit, mais c'est pour ça qu'on vous appelle, on a besoin de vous. Aidez-nous à trouver la solution pour mettre en continuité la liberté religieuse, ou un autre thème, et le magistère antécédent. Mais, achève Mgr Ocaris, ce qui oppose fondamentalement les deux côtés de la table, c'est un a priori. Vous, nous dit-il, vous avez un a priori de rupture. Nous, nous avons un a priori de continuité. Or, on doit avoir un a priori de continuité, puisque c'est le magistère qui parle, donc c'est vous qui avez tort. Très facile, très facile. Autrement dit, botté en touche, ce qui est déjà très honnête, sur le débat de fond, liberté religieuse, pour dire, mais attention, il y a l'autorité. L'autorité, c'est Rome qui l'a, donc obéissez. Il est très intéressant de voir qu'en décembre 2011, juste après que Mgr Felley, je vais y arriver, ait apporté sa réponse à Rome, eh bien, Mgr Ocaris va réouvrir en public ce débat sur la liberté religieuse pour réécrire ce même argument de l'obéissance dans l'Observatorio Romano. C'est un message direct à Mgr Felley. Donc voilà, donc ces discussions s'achèvent sur le fond, donc variable selon les thèmes. Que se passe-t-il après les discussions doctrinales? Très festival, à Rome, vous savez, au mois d'août, il n'y a que les chiens et les Français dehors. C'est un proverbe qui dit ça. Donc après la trêve estivale, Monseigneur Follet est donc convoqué à Rome par le cardinal Levada, officiellement pour évaluer ensemble les discussions doctrinales. Et donc Monseigneur arrive à Rome entouré de ses deux assistants, à la demande de du cardinal Levada. Et lors de cette rencontre, curieusement, il ne sera nullement question des discussions doctrinales. Pas une seule fois, ils ne vont en parler. En fait, à peine arrivé, bon, il y a un point abordé, mais secondaire, enfin, qui est annexe, et à peine arrivé, sinon, a été lu à Monseigneur Follet le texte du ce qu'on a appelé le préalable doctrinal. Rome avait préparé plusieurs documents, en fait. Elle avait préparé une note préliminaire, un préalable doctrinal, faisant à peu près une vingtaine de lignes, un peu plus, ou peut-être une trentaine, et ensuite il y avait les bases d'une proposition canonique jetée sur le papier. Il y avait ce qu'on appelle la profession de foi du cardinal Ratzinger, écrite en 89, la profession de foi de Paul VI également. Et tout cela donc a été lu à Monseigneur Follet et à ses assistants, et on leur a expliqué que la signature de ces documents était un préalable indispensable à toute reconnaissance canonique. Ce préalable doctrinal, illustré de sa note préliminaire, explicative, reprenait de manière très habile, toujours, ces formules d'adhésion à l'enseignement du Concile Vatican II et des papes subséquents à la légitimité de la nouvelle messe, à l'acceptation du nouveau code de droit canonique. Et j'oublie un point, liturgie. Et oui, puis donc la fameuse profession de foi de cardinal Ratzinger de 89, l'adhésion au magistère vivant de l'Église. On ne sait pas trop ce que veut dire vivant chez eux, enfin si on le sait malheureusement, enfin c'est pas vraiment ce que... Bon. Bref, hein. Voilà. Donc Monseigneur entend tout ça, et puis évidemment, grand silence derrière. Grand silence. Et au bout d'un moment, Monseigneur Follet de dire... Ben, ça va être bien difficile, évidemment. Alors, les formules étaient habiles. Par exemple, pour le Concile, il était dit, j'ai plus les mots exacts en tête, j'accepte tous les enseignements du Concile Vatican II, éclairés à la lumière de la tradition, comme cela a été fait à travers le catéchisme de l'Église catholique. Donc le catéchisme de 1996, enfin 92 et 96, est pour eux la lecture du Concile Vatican II à la lumière de la tradition. Mais ce catéchisme reprend, je veux dire, toutes les erreurs de liberté religieuse, de faux œcuménisme, de collégialité sur la rédemption, enfin on pourrait faire une liste assez impressionnante, tout est repris. Voilà. Donc on adhérait au Concile via lumière la tradition, et on disait concile à lumière la tradition égale nouveau catéchisme. Et on nous faisait prendre tout ça en bloc. C'était évidemment, je veux dire, inacceptable, parce que c'est le bien de la foi qui était en jeu. Et donc on explique à Monseigneur Follet qu'il a quelques mois pour apporter sa réponse. Quant à la proposition canonique, je veux dire la proposition canonique initiale, celle faite en ce 14 septembre 2011, elle s'avérait assez insatisfaisante. Elle était basée sur ce qu'on appelle le statut d'une prélature personnelle, qui a l'avantage de faire dépendre la fraternité directement de Rome, mais qui ne prenait nullement en compte tous nos religieux et religieuses, et en même temps qui obligeait la fraternité à avoir la permission explicite de l'évêque du lieu pour l'ouverture d'une nouvelle maison. Autrement dit, le développement de la fraternité était plus que menacé. Bon, c'est l'aspect canonique. Nous sommes le 14 septembre. Juste après, à nouveau, deux signaux, de signatures, presque, pourrait-on dire. Était-ce ces textes, relevaient-ils de la diplomatie romaine, d'une partie de la curie, qu'en pensait le pape ? On ne sait pas trop. Deux signaux, deux signatures, 8 jours après, le 22 septembre, le pape Benoît XVI est en visite à Berlin et au Bundestag, là, il reçoit une délégation de la communauté juive allemande. Et cette communauté juive allemande interpelle Benoît XVI et disant son inquiétude devant une possible réintégration de la fraternité Saint-Pie-X, laquelle n'accepte pas l'enseignement de Nostra Aetate. Nostra Aetate est donc ce texte du Concile sur le dialogue interreligieux avec toute une partie sur les relations avec le judaïsme. Et c'est à partir de là qu'on a fait du judaïsme, des juifs d'aujourd'hui, nos grands frères dans la foi, entre autres problèmes. Que l'alliance ancienne n'a jamais été révoquée, tout ça, bon, c'est contenu dans Nostra Aetate. Et donc évidemment, les juifs allemands étaient très inquiets, mais comment ça vont devenir catholiques des gens qui refusent Nostra Aetate ? Et le pape de leur répondre que, je reprends le passage exact, que la substance de Nostra Aetate doit être admise par tout catholique. Pas plus même, donc 8 jours après ce rendez-vous avec le cardinal Levada. Un peu plus tard, nous sommes un mois et demi plus tard, rebelote avec un rabbin assez célèbre dans le milieu du judaïsme, David Rosen, qui s'inquiète de la même chose et qui est entièrement rassuré par Rome pour leur dire « Vous inquiétez pas, si on les reconnaît canoniquement, c'est que ils ont accepté la substance de Nostra Aetate. » Je n'insiste pas là-dessus, vous avez tous ces textes sur le site de Dicci. Alors donc, que se passe-t-il après de ce 14 septembre, en gros, à fin novembre? Il va y avoir une phase qu'on va dire purement diplomatique, en ce sens que les relations avec Rome vont porter presque exclusivement sur la question canonique, où supérieurs, nos diplomates... cherche à obtenir de Rome une formule canonique qui soit non seulement viable, mais bonne et sécurisée pour la fraternité. Et pour l'instant, on laisse de côté le prélat doctrinal, volontairement. Et puis là-dessus, Mgr Pozzo s'impatiente un petit peu, téléphone à l'un des assistants généraux pour lui dire, mais la réponse, quand est-ce qu'on l'aura ? Cet assistant général lui dit, écoutez, pas de problème, on vous envoie la réponse pour le 1er décembre. Et donc, effectivement, Mgr Follet va adresser à Rome une première réponse ce 1er décembre 2011. Quel est le contenu de cette réponse ? Bien sûr, elle souligne l'impossibilité pour nous de signer le préambule doctrinal. La lettre est bien évidemment très respectueuse, mais également volontairement, sans doute très diplomatique, pour chercher à aller le plus loin possible dans le sens de Rome. Elle va donc volontairement chercher à atténuer, à ne pas mettre en exergue les grands différends doctrinaux. Elle dit simplement que ce préalable n'est pas signable. Elle dit pourquoi. Rapidement, elle mentionne différents faits anecdotiques montrant qu'on n'est pas les seuls à remettre en cause le Concile Vatican II et que c'est donc légitime et que ce serait un bien pour l'Église de se poser véritablement ces questions. Et puis ensuite, elle propose, elle fait, j'allais dire, une contre-proposition face à la première proposition romaine de ce préambule doctrinal. Monseigneur Felet prend un peu le même schéma, il fait une note préliminaire et puis une contre-proposition. Et dans cette contre-proposition, on pourrait dire en fait qu'elle revient à proposer à Rome un accord un petit peu bâti sur le type de celui contenu dans le fameux protocole du 5 mai 1988. Autrement dit, ce qu'on a appelé par la suite un accord purement pratique. En ce sens que on ne mentionne pas nos différents doctrinaux, mais Rome respectant cette différence de positionnement, nous accorde un statut canonique, malgré ce différent, et Monseigneur de Dire proposait la signature en signe d'adhésion, des choses très simples. Vous voulez savoir si nous avons la foi catholique, eh bien nous vous signons sans aucun problème la profession de foi du Concile de Trente. Vous voulez savoir si nous adhérons au magistère de l'Église, nous vous signons sans aucun problème Pastor Eternus de Vatican I, le numéro 25 de Lumen Gentium de Vatican II, qui est très traditionnel sur le principe du magistère, aucun problème. Mais arrêtons-nous là, arrêtons-nous là, le reste en gros ne sert pas à grand-chose. Bon, c'est pas dit comme ça évidemment. C'est donc le 1er décembre 2012, on va dire un refus non-signature du préambule doctrinal romain et deux propositions d'un accord purement pratique. 1er décembre. Fin décembre, Monseigneur Pozzo téléphone à Monseigneur Felet pour lui demander de préciser sa pensée. Pas très satisfait par la réponse de Monseigneur Felet, évidemment. Alors Monseigneur Felet écrit une deuxième lettre datée du 12 janvier, cette fois-ci sur un ton très différent. Après avoir usé du ton diplomatique, là c'est beaucoup plus une lettre de fond, une lettre comme on a connu ces grandes lettres de Monseigneur Lefebvre, une très belle lettre, centrée sur le bien de la foi. Sur le bien de la foi. Le message central de cette lettre, c'est « Nous sommes prêts, est-ce que vous l'êtes ?» Nous sommes prêts à collaborer de manière visible, institutionnelle, avec le Saint-Siège, il n'y a aucun problème pour nous. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à entendre ce que nous disons? Lorsque nous critiquons, nous dénonçons des choses qui sont contraires à la foi, êtes-vous prêts à l'entendre? Êtes-vous prêts, canoniquement, à nous protéger, sachant que vous aurez contre vous nombre de conférences épiscopales. Nous sommes prêts, l'êtes-vous? Et tout ça dans une lettre très très belle qui met vraiment en évidence et au premier plan le bien de la foi dans l'Église. Et combien il importe de redonner cette lumière claire et brillante dans ce monde ô combien enténébré. Et donc ces deux lettres vont être soumises, évidemment, à la réflexion de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui se réunira en assemblée au mois de février, je ne sais plus quand c'était, 22-24 février, par là, 23-25 peut-être. Donc c'est tous les membres qui se réunissent, quand c'est comme cela, pour consultation sur un dossier. Et là, c'est effectivement le dossier des discussions doctrinales et de la Fraternité Saint-Pilis. Et donc Monseigneur est convoqué à nouveau à Rome ce 16 mars pour recevoir effectivement la réponse romaine à sa réponse. Il s'y rend donc avec l'un des assistants généraux, non pas les deux mais un seul, pour deux raisons, son matériel et pratique. Et on remet à nouveau à Monseigneur Felet une nouvelle lettre du cardinal Levada, où on demande à Monseigneur Felet de se prononcer de reconsidérer, nous l'avons lu dans ce communiqué, de reconsidérer sa position. Et dans le même temps, présentant ce communiqué à la salle de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, qui est le porte-parole du Saint-Siège devant la presse, dit que Mgr Fallet a jusqu'au 15 avril pour apporter sa réponse. De fait, alors Pozzo ajoutera, on n'est pas à 2-3 jours près, mais en gros, un mois est donné maintenant à Mgr Fallet pour apporter sa réponse. Du contenu de cette lettre du cardinal Levada, évidemment, elle n'est pas publique, et donc, en tant que tel, nous ne savons pas grand-chose. Néanmoins, le communiqué dit déjà beaucoup de choses, une fois qu'on a tout cela en tête. Tout d'abord, ce communiqué exprime bien que la question de fond est d'ordre doctrinal. Je vous relis ce passage. « La position exprimée par Mgr Fallet n'est pas suffisante pour surmonter les problèmes doctrinaux qui sont à la base de la fracture entre le Saint-Siège et la dite fraternité. » Donc, un est reconnu, effectivement, que la base du problème est d'ordre doctrinal. Il est évident que la réponse de Mgr Fallet n'allait pas résoudre le problème, parce que le problème doctrinal n'est pas vraiment chez nous, mais bien chez eux. Et effectivement, on va le voir dans un instant, en 2 ans de discussion doctrinale, ils n'ont pas réussi à nous acculer et à mettre le doigt dans ce que nous exprimions sur un point qui serait contraire ou qui menacerait la foi catholique. Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés, ce communiqué le dit lui-même. Qu'est-ce que ce préambule doctrinal du 14 septembre arrivé en conclusion des discussions? Qu'est-ce que c'est? Comment est-il décrit par ce communiqué? Dans ce préambule du communiqué, étaient énoncés certains principes doctrinaux et critères d'interprétation de la doctrine catholique nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église. Quand on prend une garantie, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. C'est une sécurité supplémentaire. Donc, ce qu'ils attendent de nous, d'après ce communiqué, ici, ce n'est pas les principes doctrinaux nécessaires à la fidélité, à la foi et au magistère. C'est quelque chose de nécessaire pour garantir. S'ils avaient pu se passer du mot « garantir », il n'y a aucun doute qu'ils l'auraient fait. Il y a là, dans cette formule, une véritable reconnaissance de faiblesse. Voyez la nuance. Troisième chose que dit ce communiqué, c'est que Rome, maintenant qu'on sait le contenu de la réponse de Mgr Fallet, qui faisait cette proposition d'accord pratique, Rome estime insuffisante la proposition de Mgr Fallet. Ce communiqué dit « La position exprimée par Mgr Fallet n'est pas suffisante pour surmonter les problèmes doctrinaux. » Autrement dit, on reproche à la Fraternité Impidis de refuser tout accord pratique, et elle a effectivement des raisons importantes pour être défiante par rapport à une telle formule. Je reviens dans un instant. Mais le jour où Mgr Fallet le fait, et qui plus est de manière la plus officielle qui soit, c'est Rome qui dit non. C'est Rome qui ferme cette porte-là. Et qui dit non, il y a un problème doctrinal, il faut résoudre le problème doctrinal. Ce communiqué dit enfin une quatrième chose. C'est l'arme de la menace, qui est très réelle. L'arme de la menace. Au terme de la rencontre de ce jour, dans le souci d'éviter une rupture ecclésiale aux conséquences douloureuses et incalculables. On ressort tous les grands épouvantails du schisme, de l'excommunication, et ainsi de suite. Mais dans le même temps, on a sorti toutes les carottes, hein, des superbes formules canoniques. L'un de nos assistants généraux disait que tout n'est pas écrit, donc rien n'est garanti, hein, mais que dans les propos, on était arrivé à une formule canonique que ce supérieur estimait, je cite, « optimale ». Donc la superbe carotte, hein, le grand bâton, des communications, et entre les deux, signé. Signé. Et je crains fortement, très très fortement, vu tout ce contexte, qu'en fait, soit demandé à Mgr Felet une formule d'adhésion au nouveau catéchisme. Attention, je n'ai pas lu cette lettre, elle est confidentielle. Que soit réclamé de Mgr Felet une formule d'adhésion impliquant la reconnaissance du nouveau catéchisme. Sinon, il y a sans doute menace, effectivement, de nouvelles sanctions. Ça se peut très bien aujourd'hui. Il y a effectivement un véritable bras de fer autour, toujours le même finalement, depuis 40 ans, autour de cette reconnaissance des nouveautés conciliaires et de la nouvelle messe. Toujours le même bras de fer dans le fond qui est là présent. Alors ce bras de fer en ce moment est en très grande tension entre Mgr Felet d'une part et les représentants de Benoît XVI d'autre part. Y a-t-il une part de bluff tant dans la beauté de la carotte présentée que dans ces épouvantails qui sont dressés? Nous n'en savons rien. Mais aujourd'hui, de fait, la situation est celle-ci. D'où le communiqué que Mgr Felet a adressé hier, vous a adressé hier, pour ceux qui l'ont peut-être vu sur Internet, adressé à tous les fidèles. Communiqué que je vous lis. Vous en aurez le texte dimanche dans la feuille de l'étendard de Saint-Louis. À la suite de sa rencontre le 16 mars 2012 avec son éminence le cardinal William Levada, Mgr Bernard Felet, supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, invite instamment les fidèles à redoubler de ferveur dans la prière et de générosité dans les sacrifices en ces jours saints et dans les semaines qui suivront la fête de Pâques, afin que la volonté divine se fasse. Et elle seule, comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous en a donné l'exemple au Jardin des Oliviers. Non mea voluntas, sed tua fiat. Que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne, disait le Christ à son Père. Plus que jamais, se révèle indispensable la croisade du rosaire commencée à Pâques 2011 et qui doit s'achever à la Pentecôte 2012. C'est pourquoi la Fraternité Saint-Pédis, qui ne veut que le bien de l'Église et le salut des âmes, se tourne avec confiance vers la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle lui obtienne de son divin Fils les lumières nécessaires pour connaître clairement sa volonté et pour l'accomplir courageusement. Que les fidèles veuillent bien offrir une sainte communion à cette intention. Il nous est demandé à nous, à chaque prêtre, de célébrer une messe en l'honneur de l'Esprit Saint pour que celui-ci éclaire au mieux nos supérieurs. Eh bien, pour vous, il vous est demandé d'offrir une sainte communion à cette intention. Qu'il fasse pleinement l'heure, en pensée et en acte, la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'adresser à notre Père des cieux, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà donc un petit peu ce communiqué daté d'hier, de Mgr Felet, qui résume bien ce qu'il nous importe de faire aujourd'hui à travers cette prière, ces sacrifices, cette fin de carême. L'un ou l'autre pose la question, mais alors, si c'est pour en arriver à une telle tension, à quoi servaient ces discussions doctrinales? Et puisque vous dites vous-même, me disent ces gens-là, que avant de vous rendre à Rome, au vu de ce que pouvait dire ou écrire le cardinal Levada, la secrétairerie d'État, vous saviez qu'il allait vous réclamer cette signature. Pourquoi aller à Rome? Il est très clair que nos objectifs n'étaient pas les leurs. Ça, c'est très clair. On n'était pas là, d'abord pour une reconnaissance canonique, quitte à signer une formule d'adhésion un peu vague.
et trouver un peu de flou artistique pour camoufler certaines choses. Ce n'est pas du tout notre objectif à nous. Notre objectif était double. Il était d'abord donc de déposer à Rome, de manière complètement officielle, un dossier constitué, aussi complet et appuyé que possible, pour, de manière officielle, témoigner et laisser ses traces du véritable problème doctrinal qui se pose aujourd'hui dans l'Église. De même que Mgr Lefebvre avait envoyé en 1986 ses Dubia sur la liberté religieuse, et bien de même, nous voulions, nos supérieurs voulaient apporter ce témoignage de foi à Rome même. La foi ne nous appartient pas. La foi n'est pas à vous. Elle n'est pas à moi. Elle est à l'Église, et c'est l'Église qui est gardienne de la foi. Eh bien, il est normal que ce trésor de la tradition, essentiel à la vie de la foi, inséparable de la vie de la foi, ce trésor de la tradition, nous allions le remettre entre les mains que Dieu lui-même a désignées pour en être le gardien. C'est complètement normal. Et donc, nous avions cette occasion d'aller à Rome pour porter officiellement ce témoignage en faveur de la tradition. Il était nécessaire, pour le bien de la foi, de pouvoir porter ce témoignage. Et quand bien même ceux qui étaient en face de nous restaient hermétiques à ce discours que je n'affirme pas, dato non concesso, je suppose. Quand bien même ils resteraient complètement inaccessibles à notre discours, néanmoins les pièces du dossier sont là. Le dossier s'ouvre désormais avec ces pièces. Et ceux qui demain auront un regard ouvert sauront à Rome y puiser le nécessaire. Donc premier objectif, principal, fondamental, qui était celui de notre supérieur général. Deuxième objectif, plus circonstanciel, événementiel, consistait à ne plus être les seuls à porter publiquement le fer contre les nouveautés du Concile Vatican II. De par tous les contacts que nous avions depuis quelques années, que les confrères italiens notamment avaient depuis quelques années avec des théologiens, avec des prélats, avec des évêques, nous savions que des voix relativement nombreuses commençaient à se poser les bonnes questions, voire à apporter les bonnes réponses. Ceci dit, ils ne parlaient qu'en demi-teinte et discrètement, forcément, peu par crainte des représailles. Le fait que Rome, le Saint-Siège, la doctrine de la foi, accepte de parler officiellement avec la fraternité de la nature magistérielle du Concile et de son contenu, montrer à tous ces penseurs catholiques qu'il leur a été permis de réfléchir à la nature magistérielle du Concile et au contenu de ses enseignements. Et donc, ces discussions ont véritablement fédéré toute cette intelligence catholique manifeste notamment en Italie. Alors ça s'est concrétisé par plusieurs manières, plusieurs voies, plusieurs faits. Il y a d'abord eu en décembre 2010 un grand symposium à Rome organisé par les franciscains de l'Immaculée à quelques dizaines de mètres de la cité du Vatican sur la nature magistérielle du Concile Vatican II. Message clairement affiché. Ça a été un petit tremblement de terre dans le milieu romain. Il y a 5 mois maintenant, une supplique signée, je crois, par 54 penseurs catholiques a été adressée au Saint-Père en personne pour lui demander de mettre à profit le 50e anniversaire du Concile Vatican II pour ouvrir le débat de sa nature magistérielle, de la validité de certains enseignements, et de citer la liberté religieuse, l'œcuménisme, nouvelle ecclésiologie, enfin, ce texte, nous l'aurions écrit, ça aurait été la même chose. Sauf que là, si vous voulez, ce sont des professeurs d'université, des prélats, des théologiens de renom qui signent ces textes-là. De même, le débat sur la liberté religieuse s'est très fortement intensifié dans le monde italien, avec toute une série de penseurs catholiques qui se nourrissent dans tous les écrits que peuvent publier la fraternité, pas seulement là, mais qui suivent de très très près tout ce que nous écrivons, et qui nous félicitent, nous encouragent, nous corrigent, ainsi de suite. Bon. Donc le débat sur la liberté religieuse est lancé en Italie sur la place publique à un tel niveau que l'Observatore Romano a dû intervenir par 3 fois pour essayer de faire taire ce débat, pour vous dire. Donc, vous voyez, il y a sur tous ces penseurs un véritable effet bénéfique de ces discussions. Et ces penseurs, il y en a de très âgés, qui ont encore leur tête de manière impressionnante, je pense à Monseigneur Gherardini, mais il y en a beaucoup de très jeunes, qui ont 40, 45 ans. Je veux dire, pour un théologien, pour un professeur d'université romain, c'est jeune. Et donc, effectivement, ce sens-là, et je conclurai par là, on peut, sans vous l'avoir dit avant qu'elle ne s'ouvre, je le redis en tout cas aujourd'hui, pour ma part, je compare ces discussions doctrinales à une réunion qui s'est tenue à Rome, en 1982, je crois, organisée par le tout jeune cardinal Ratzinger. Il voulait faire bouger la question liturgique. On connaissait ses critiques vis-à-vis du nouveau rite, et on savait le respect qu'il avait pour le rite traditionnel. Comment s'y est-il pris ? Il a fait donc une réunion officielle à huis clos, mais dont le thème était annoncé Urbi et Orbi, pour savoir si la messe traditionnelle avait été canoniquement abrogée ou pas. Nous sommes en 82, je crois. Conclusion de cette première réunion, la messe traditionnelle n'a jamais été abrogée. Le lendemain, rien ne change. Coup d'épée dans l'eau ? Non. Début d'une réforme, on va dire, des mentalités, mise en évidence dans l'intelligence catholique des questions doctrinales essentielles de la messe qui ont été passées sous silence depuis quelques décennies. Et vont commencer à paraître, à partir de ce moment-là, plusieurs livres. Je pense à ceux écrits, par exemple, par Mgr Gambert, ou encore à ceux écrits par le cardinal Ratzinger lui-même, qui, loin d'être parfaits, qui ne disent pas ce que la fraternité dit, mais qui néanmoins vont tous dans le même sens, au profit de la messe traditionnelle. Et lentement, un changement des mentalités va s'opérer, et qui va aboutir, 25 ans après, courage, à la première libéralisation de la messe traditionnelle avec ce motu proprio de 2007. Ce motu proprio trouve son origine dans cette réunion de 1982. Eh bien, ce qui s'est passé au niveau liturgique est en train de commencer au niveau doctrinal, au niveau fondamental. Désormais, le débat est ouvert, publiquement ouvert. Il y a ces courants de pensée qui commencent à s'exprimer publiquement, qui écrivent, qui publient. Et je suis persuadé que ce n'est là qu'un début et que c'est grâce à cela, à moyen terme, que les mentalités vont pouvoir se transformer et donc la crise se résorber. Ça passera, j'en suis intimement persuadé, ça passera par là. Et donc, quant à nous, évidemment, ce qui compte, c'est de garder avec autant de force que de charité, une foi éclairée, une foi instruite, et au niveau de la fraternité en tant que telle, pense de continuer à faire tous ces grands travaux qui sont très très lus dans ces milieux-là, et donc une influence véritable. Nul n'est devin, mais à vue humaine, si vous voulez, c'est ainsi que moi, je devine un petit peu les années à venir. C'est un petit peu comme cela. Certes, dans ce bras de fer entre Rome et la Mgr Follet aujourd'hui, tout peut en sortir d'une condamnation renouvelée à un statut canonique. Tout peut en sortir, encore aujourd'hui, je crois, j'ai l'impression. Mais j'ai envie de dire, ça surprend quand je dis ça, mais j'y crois profondément, ce n'est là pour moi un peu qu'un épiphénomène. Ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est dans cette résolution de la crise de l'Église, et ce n'est pas seulement une condamnation ou seulement un statut canonique qui résorbera la crise de l'Église. Ce qui va la résorber, c'est que Rome reprenne à son compte cette lumière si belle et si vive de la foi, et pour cela que tous ces théologiens, tous ces penseurs, tous ces professeurs, tous ces prélats, tous ces évêques, eh bien, petit à petit retrouvent eux-mêmes cette vraie lumière, puisque c'est eux qui demain, si Dieu veut, auront les charges et les responsabilités dans l'Église. Donc continuons en ce sens, et puis bien sûr, faisons nôtre ce grand souci du Mgr Follet, répondons à son invitation, à la prière, à cette grande croisade du rosaire, et à notre vie de sacrifice au profit de toute l'Église. Je vous remercie pour votre attention.